plus d'excuses. Agir contre les violences sexistes et sexuelles au travail et pour une égalité réelle dans la culture et l'économie sociale et solidaire. Un magazine produit par les radios de la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, et par Radio Boa, la radio régionale associative bretonne, en DAB+.
Bonjour à toutes et à tous. Comment rapprocher à nouveau de l'emploi les femmes qui en sont éloignées? Pour répondre à cette question, nous échangerons dans quelques minutes avec Céline Bourrand, doctorante en sciences de gestion et de management à l'IAE Paris-Panthéon-Sorbonne et chargée d'études de la Fédération nationale des CIDFF, spécialisée sur les questions d'employabilité des femmes et de leurs dispositifs d'accompagnement. Mais tout d'abord, partons à la rencontre du dispositif Boost ton projet pro, un programme d'accompagnement spécifique cofinancé par le CIDFF, la ville de Pontivy, le département du Morbihan, la préfecture du Morbihan et l'Union européenne. Ce programme permet à des femmes de retrouver de la confiance en elles et donc de retrouver un chemin vers l'emploi. C'est un reportage signé Amélie Durand de Radio Bourgeonnette, votre radio associative locale bilingue dans le pays de Vannes-Pontivy.
Boostons Projet Pro, c'est un dispositif qui a été pensé dans le cadre de l'accompagnement des femmes éloignées de l'emploi porté par le CIDFF du Morbihan, par le service emploi du CIDFF du Morbihan. Donc nous proposons un dispositif qui s'appelle Un parcours pour chacune, dont le principe est d'adapter l'accompagnement aux personnes et au territoire sur lequel nous intervenons.
C'est plutôt du genre, je n'ai jamais eu à sacrifier mon travail pour ma famille.
Donc moi, j'interviens sur plusieurs territoires, et notamment le territoire de Pontivy, territoire rural. Et dans ce cadre-là, c'est un territoire sur lequel j'interviens depuis, moi, 2 ans, mais sur lequel le service emploi est présent depuis plus de 5 ans, où nous avons pensé qu'une action collective d'accompagnement pourrait être intéressante. Et donc, dans ce cadre, on a effectivement mis en place le dispositif Boostons Projet Pro, donc qui est spécifique au territoire de Pontivy, pour l'accompagnement collectif exclusivement de 8 femmes éloignées de l'emploi. Et donc moi, mon rôle en tant que conseillère insertion professionnelle, c'est d'animer et d'organiser cet accompagnement pour les personnes.
C'est du dessus.
Okay. Donc,
vous essayez d'imaginer l'état d'esprit, la vie de ce personnage-là. Bien évidemment, vous allez tout être bourré de préjugés, c'est le principe. Alors, je peux facilement me déplacer dans la ville.
Dans la ville.
Je ne fais pas attention au prix de mes achats alimentaires. Je n'ai pas à cacher mon orientation sexuelle. Ok, restez à vos places, retournez-vous pour celles qui sont devant. Ida et Angélique, alors Angélique est un peu plus avancée. Ida, comment as-tu vécu cet exercice?
Un peu compliqué parce que je savais pas trop si ça correspondait ou pas.
Alors, ton personnage était qui?
Je m'appelle Leïla, j'ai 32 ans, je suis une femme marocaine et musulmane. Je porte le voile, j'élève mes 2 filles, mon mari ne veut pas que je travaille.
Est-ce que ton personnage pouvait dire ces phrases-là?
Pas trop. Des fois peut-être, mais je ne suis pas dans sa peau. Alors non, on demandait si elle se sentait bien dans sa peau, je ne sais pas.
Je vous ai dit, vous partez avec vos préjugés. Mais clairement, je suis musulmane, donc je porte le voile. Elle le précisait ou pas?
Oui.
Je porte le voile. L'histoire sur « on ne m'a jamais fait de remarques sur le fait que je porte un signe religieux », clairement, elle a dû le prendre une fois dans sa carrière. Je n'ai pas à me faire de soucis, je pars en vacances quand je veux, etc.
Bah non.
A priori, si le mari ne veut pas qu'elle travaille, il y a des chances.
Nous avons eu, il y a 2 ans, une réflexion sur, mais en fait, c'est quoi le sens de l'accompagnement du CIDFF et quelle est notre plus-value ou du moins notre spécificité par rapport à d'autres dispositifs d'accompagnement à l'insertion qui puissent exister sur le territoire. Donc le premier, c'était qu'effectivement, on ne s'adressait qu'aux femmes, avec un regard égalitaire, puisque le CIDFF est une association aussi militante pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est d'ailleurs sur cette mission-là qu'on est attendu par l'État. Donc du coup, la réflexion, elle est née de comment se passaient les différents dispositifs jusqu'à présent. Et en fait, moi étant issue de l'animation socioculturelle, je crois beaucoup au collectif, je me rendais bien compte que les accompagnements individuels étaient intéressants mais pas suffisants. Un des freins principaux des femmes qu'on accompagne, c'est un grand isolement. Donc c'était aussi un moyen de lever ce frein-là, de les sortir leur isolement en étant ensemble. Donc voilà, c'était un pari qu'on a fait.
J'ai 52 ans, j'ai mon projet de reconversion maintenant, je veux devenir couturière. J'étais perdue parce que j'étais licenciée pour des soucis de santé que j'ai eu au travail. Je me suis toujours moi sentie inférieure parce que je suis une femme. C'est vrai. Déjà plus jeune, je me disais qu'être un garçon, ça aurait été beaucoup mieux. J'ai toujours pensé qu'en fait, j'avais pas les capacités pour ni étudier. Enfin, voilà, j'étais pas encouragée pour ça. J'avais d'autres choses dans la vie à surmonter, en fait. Et du coup, aujourd'hui, en fait, je sens tout l'inverse. Je pense que c'est grâce à Aline. Aline, c'est un vrai chef d'orchestre, en fait. Et moi, je la remercie parce qu'elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée, quoi.
Parmi les femmes que j'accompagne, il y a des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, notamment, ou de violences intrafamiliales. Cela étant, le service emploi n'est pas réservé à ces femmes-là. On accueille aussi des femmes tout venant qui peuvent nous être orientées par le centre médico-social, qui peuvent nous être orientées par France Travail, qui peuvent venir d'elles-mêmes parce qu'elles ont vu un flyer quelque part ou qu'elles ont entendu parler de nous, ou qui effectivement peuvent être orientées par le service juridique violence du CIDFF. L'accompagnement des femmes, des personnes victimes de violences est un dispositif à part de l'accompagnement de l'emploi. L'accompagnement vers l'emploi est un plus pour certaines de ces femmes-là. On est vraiment dans cette logique de rendre l'autonomie des femmes, donc à travers le droit, à travers le droit notamment, et puis aussi l'autonomie économique. Donc qui dit autonomie économique dit emploi ou activité professionnelle. Un des principaux freins nommés par les femmes est notamment les femmes qui ont été victimes de violences conjugales, notamment les femmes qui sont mamans solo, notamment les femmes qui ont vécu du harcèlement dans le cadre du travail, etc., c'est qu'elles ont un très très fort sentiment d'isolement. Et c'est d'autant plus vrai dans les territoires ruraux, comme le territoire de Pontivy. Donc ça, c'est la première chose. C'est vrai que ça leur permet d'avoir un endroit où elles rencontrent d'autres personnes, tout simplement. Le deuxième apport du collectif, c'est le soutien mutuel. C'est que très rapidement, elles se rendent compte qu'elles peuvent apporter des choses aux autres. Donc elles sortent de ce sentiment de ne rien valoir, qui est aussi souvent prégnant. Elles s'entraident, elles se soutiennent, elles ont des idées, elles ont des compétences qu'elles arrivent à mettre en œuvre pour les autres, souvent plus pour les autres que pour elles-mêmes, c'est toujours plus facile. Et du coup, ça crée une émulation qui les maintient. Là, on arrive à la fin du dispositif, il se termine en juin. J'ai certaines femmes qui ont un plan d'action qui est professionnel, qui est très acté. Elles sont dans les recherches d'emploi, elles savent ce qu'elles veulent faire, etc. Et j'en ai d'autres qui sont encore dans une phase d'oser se projeter dans un projet professionnel. Et c'est des femmes que potentiellement j'aurais perdues en accompagnement individuel. Et qui là, grâce à la force du groupe, reste portée par le groupe et reste motivée. Et elles disent, c'est vraiment ma bouée de secours, la bouffée d'air dans la semaine et ce qui me donne des raisons de continuer.
Je m'appelle Ida, j'ai 56 ans et j'habite Guénin. Je n'avais pas encore de projet. Je l'ai, peaufiné au fil des semaines. Ça s'est révélé au fil des semaines dans le travail que l'on fait. J'aimerais faire formatrice. Et avec Boost ton projet pro, ça m'a permis au fait de mettre un petit peu toutes mes compétences, mes qualités un petit peu à plat et de me rendre compte que c'était un travail qui me correspondait. Au départ, je ne savais pas comment faire pour m'orienter. Donc le fait que on soit en petit groupe, en petit comité, et puis que l'on échange sur les différentes façons d'accéder à différents emplois par différentes méthodes, nous permettent au fait de nous ouvrir des portes et de comprendre aussi qu'il y a des possibilités pour avancer quand on a un réel projet. Dans Boost ton projet pro, ce qui est très très important et qu'on le signale pas suffisamment, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'attention qui est apportée aux personnes par ce qu'elles sont et par leur vécu. Et donc c'est ce qui nous aide justement à nous rebooster et à garder confiance dès qu'on va en ressortir encore plus fort après.
Très rapidement, on a mis la première chose en place, c'est un groupe WhatsApp. Donc elles ont ce groupe WhatsApp qui au début était très animé par moi. Et aujourd'hui, j'ai plus ma place quasiment, puisque c'est des échanges extrêmement importants entre elles. Voilà. Et très rapidement aussi, elles se sont dit, ce serait bien qu'on se voit en dehors des ateliers, parce qu'on a besoin d'être ensemble aussi pour continuer à travailler tous les outils que nous donne Aline. Il y a une des participantes qui a proposé tout simplement son appartement, donc elles se retrouvent régulièrement, elles se retrouvent aussi les unes sur les autres, et je pense qu'il y aura vraiment une dynamique de maintien à l'issue du dispositif.
À l'instant, ce reportage sur le dispositif Boost ton projet pro mené par le CIDFF du Morbihan, le Centre d'information des femmes et des familles. Un reportage signé Amélie Durand de Radio Brojonette, votre radio associative bilingue français et breton dans la région de Pontivy et dans le Morbihan Sud. Pour aller plus loin sur ce sujet de l'employabilité des femmes, nous sommes en liaison aujourd'hui avec Céline Bourrand, doctorante en sciences de gestion et de management à l'IAE Paris 1 Sorbonne et chargée d'études également à la Fédération nationale des CIDFF, spécialisée sur les questions d'employabilité des femmes et de leurs dispositifs d'accompagnement. Bonjour Céline Bourrand.
Bonjour.
Alors, peut-être tout d'abord, comment réagissez-vous au reportage que l'on vient d'entendre et qui illustre ce dispositif destiné à rapprocher à nouveau de l'emploi des femmes qui en sont éloignées?
Alors, ce reportage, il est particulièrement marquant pour moi parce que j'ai eu la chance, dans le cadre de ma recherche, d'assister à une journée d'atelier à Boost ton projet avec Aline et avec les femmes qu'on entend dans le reportage.
Oui, vous les connaissez bien.
Et, voilà, je les connais. J'ai même eu la chance de pouvoir les interviewer pour qu'elles me racontent un peu leur parcours de vie et justement ce qu'elles ont pu et ce qu'elles peuvent trouver dans cet accompagnement. Et ce que je trouve beau dans ce dispositif, c'est qu'il y a une vraie dynamique qui appartient en fait à la rencontre des femmes entre elles. Il est dit qu'Aline est le chef d'orchestre, et c'est tout à fait ça. Elle ouvre par son expertise professionnelle et une approche son approche féministe, elle ouvre la possibilité aux femmes de raconter et de lire leur parcours et de se l'approprier en pouvant réfléchir sur tous les aspects de ce parcours, sur tout ce qui les construit. Et en fait, voilà, je trouve ça particulièrement riche, et c'est vrai que les femmes accompagnées ont besoin de cet espace, et il y a une vraie bienveillance.
Alors, en introduction de notre entretien, j'ai utilisé un mot qui est le mot employabilité. Qu'est-ce qu'on entend par là exactement, Céline Bourrand ?
Alors, en fait, moi, je m'inscris en fait dans des travaux de recherche de chercheurs en sciences de gestion et spécialisés dans les organisations. Ce concept d'employabilité, en fait, il recouvre la capacité à pouvoir se projeter dans un avenir professionnel et durable, mais aussi surtout de pouvoir se mouvoir de façon autonome à l'intérieur du marché du travail. Et donc, de fait, l'employabilité, ça nécessite que l'individu se reconnaisse, se forge une identité professionnelle, et que cette identité professionnelle soit assise pour pouvoir se dire, je peux me déplacer dans le monde de travail sans le subir, mais me l'approprier. Et l'employabilité, en fait, ça concerne autant l'individu dans justement son parcours, sa capacité à se projeter, mais ça concerne aussi les organisations dans ce qu'elles vont pouvoir mettre en place pour faciliter l'employabilité de ses salariés, les formations, les mouvements internes, etc. Et aussi les politiques publiques. Justement la mise en place par exemple des comptes personnels de formation, par le fait de voilà de ces systèmes, mais par contre c'est dans un contexte économique et social, et parfois justement l'employabilité va être réduite, et ça c'est dangereux, surtout quand on est dans une politique comme actuelle du zéro chômage, avec une nécessité d'appareiller comme ça des personnes à des emplois. On pourrait vite tomber dans quelque chose de il faut que les personnes puissent prendre n'importe quel emploi. L'employabilité, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment aussi un moment que la personne, elle s'approprie sa projection, elle s'approprie une identité professionnelle et qu'elle puisse faire des choix dans le monde du travail et pas subir le monde du travail.
Alors là, dans cette définition, on ne parle pas encore spécifiquement de l'employabilité des femmes. On parle d'employabilité aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Quels sont peut-être les principaux freins, justement, qu'on peut rencontrer face à cette employabilité ?
Alors, en fait, Claude Dubard, qui est un grand sociologue, a travaillé sur la question de l'identité professionnelle. Et ce qu'il dit, c'est que c'est une articulation entre l'histoire personnelle des individus, mais aussi un contexte historique et sociale qui va influencer les choix. De fait, les freins à l'employabilité pour toute personne vont être liés soit à leur parcours de vie, le contexte dans lequel ils ont grandi, la culture dans laquelle ils ont grandi, les moyens qui leur ont été donnés de pouvoir penser leur histoire et se construire, mais aussi en fonction de la société, de ses possibles et de ce qu'elle donne, les moyens qu'elle peut donner. Il y a une étude qui a été faite au sein d'un pôle emploi en 2020, si je ne me trompe pas, ou 2022, et qui repère en fait 7 freins périphériques justement à l'employabilité, qui vont être la question du logement, de la santé, du financier, la capacité de chacun à pouvoir s'insérer et à communiquer, tout ce qui va être lié aux difficultés administratives et juridiques, les contraintes familiales et le transport. Ça, ce sont les freins que toute personne peut plus ou moins rencontrer dans son parcours et qui peuvent venir impacter son employabilité.
Alors, en relation avec le reportage que l'on a entendu tout à l'heure, là, on parlait plutôt de l'employabilité des femmes. Est-ce qu'il y a des freins spécifiques qui concernent en particulier les femmes éloignées de l'emploi ?
Oui, il y a des freins spécifiques qui sont liés aux femmes. On est inscrit dans un contexte sociétal qui est quand même patriarcal et qui, du coup, véhicule des stéréotypes par rapport à l'assignation des places, à l'assignation des rôles entre les femmes et les hommes. Par exemple, au niveau de l'emploi, il y a des recherches qui peuvent montrer que dans l'emploi, on va assigner des places. Il y a une étude qui a été faite dans un hôpital, comment on s'occupe des enfants malades quand les éducateurs sont partis. Par principe, on va demander aux infirmières, parce que ce sont des femmes. Mais les infirmières, elles-mêmes disent, ouais, on a un côté maternel, donc on va le faire. On s'aperçoit que, par exemple, quand un mari a des possibilités d'évolution, des possibilités de changer d'emploi ou se déplacer, eh bien, la femme suit, elle quitte son emploi parce qu'elle est moins bien payée de manière générale. Et puis, elle va garder les enfants parce que parfois, c'est moins coûteux de garder les enfants que de trouver une place en crèche, et que comme elle a un salaire moindre, elle le fait. La santé, cette idée de dire que les femmes sont moins douillettes que les hommes, elles se soignent moins. Le permis, voilà aussi, quelque chose de l'homme autour de la voiture, de conduire la femme. Voilà, tout ça assigne. Et ce qui fait que ça crée des freins spécifiques à l'employabilité des femmes, parce que il faut pouvoir travailler sur tous ces stéréotypes pour qu'elles puissent s'autoriser parfois à se projeter dans l'emploi.
Est-ce qu'il y a des phénomènes d'isolement aussi qu'on peut pointer qui empêchent aussi cette employabilité des femmes ?
Oui, parce que du coup, lié à toute cette introduction qui concerne un peu le regard de la société, ça génère des freins structurels pour les femmes et aussi des freins socio-structurels, culturels, pardon. Donc les freins structurels, on va être en effet sur les organisations du territoire, la mobilité. Le mode de garde, la question de l'accès aux institutions publiques. Si on n'a pas le permis, si on est famille monoparentale, forcément, c'est plus compliqué. Donc, on se retrouve avec des freins liés au territoire. Et puis, il y a aussi des freins structurels qui sont liés aux enjeux politiques et financiers. Quelles sont les orientations politiques d'un territoire et les orientations financières qui permettent de dire on va aider, on va soutenir l'employabilité des femmes selon qu'elles habitent dans un quartier prioritaire, qu'elles habitent dans le milieu rural, qu'elles soient au RSA, etc. Ça, ce sont des freins qui sont structurels à l'employabilité des femmes. Et ensuite, on va avoir les freins socio-culturels. Donc, on va avoir la question de tout ce qui est pour des publics de migration, etc. Donc, ce qui va être à l'accès à la langue, la culture, les pertes de repères, le fait de pouvoir faire reconnaître ses diplômes. Et la question de l'isolement géographique, mais aussi l'isolement social. Et puis, en majorité et en priorité, un peu tout ce qui va être lié à la confiance en soi. C'est un des freins majeurs pour les femmes. En fait, se dire, j'ai le droit. Voilà. Elles existent en général en tant que mère. Voilà, je suis mère, j'ai un statut de mère. En tant que femme, j'existe pas forcément. Et en tant que salariée, parfois, je l'imagine même pas.
Ouais, j'entends bien que le manque de confiance, c'est un des freins majeurs. Et justement, est-ce qu'il y a forcément aussi des facteurs aggravants qui sont aussi le parcours de ces femmes avec parfois des traumatismes liés à des violences familiales ou aux violences sexistes et sexuelles? C'est forcément, ça vient aussi aggraver la confiance en soi, j'imagine.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la question de la confiance en soi, elle est liée déjà aux représentations que l'on peut s'autoriser à avoir en tant que femme. Est-ce que je peux m'autoriser à faire des choix pour moi? Et puis ensuite, il y a l'histoire personnelle. Et de fait, lorsque on a vécu des traumatismes, lorsqu'on a vécu la migration, par exemple, eh bien, en effet, on a en plus à se réconcilier avec cette histoire. On a à pouvoir aussi sortir, en fait, d'une démarche de se dire « je suis responsable d'eux ». Et donc, de pouvoir déconstruire son histoire pour se la réapproprier. Et donc, de pouvoir se dire « oui, ce parcours-là m'impacte et oriente mes choix, mais il y a quelque chose qui m'appartient pas là-dedans. Il y a quelque chose où je ne suis pas responsable. » Et donc, du coup, un des premiers travaux qui est à faire pour travailler l'employabilité et pour travailler une identité professionnelle, c'est déjà de pouvoir être en paix. Être en paix avec son histoire, être en paix avec son parcours. Et pour ça, il faut pouvoir le raconter, se l'approprier. Moi, je me rappelle d'une dame qui a été victime de violence, qui n'a pas travaillé du coup pendant 8 ans, parce que son fils, entre autres, avait été aussi victime et il a fallu l'accompagner parce qu'elle était en dépression. Et quand je l'interview, elle me dit, en fait, j'ai honte parce que je ne sais pas expliquer ce trou. Et en fait, ce que je lui dis, c'est que vous ne pourrez pas expliquer tant que vous aurez pas fait la paix et que vous aurez pas trouvé un moyen de raconter cette histoire, vous ne pourrez pas justifier. Donc c'est il y a vraiment des processus qui sont en jeu. Ça s'appelle l'empowerment aussi, c'est de dire je contrôle ma vie, je reprends le contrôle de ma vie parce que je l'ai compris, j'ai compris ma vie et je peux en faire quelque chose.
Alors, on a entendu sans doute tout à l'heure dans le reportage certaines pistes de solutions. Quelle est pour vous votre vision peut-être sur les leviers qui doivent être actionnés, sur la bonne démarche, justement peut-être pour travailler aussi déjà en priorité sur redonner confiance à ces femmes éloignées de l'emploi?
Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question, mais ce que je m'aperçois dans le cadre de mes études, c'est que en fait, il y a les dispositifs d'accompagnement à l'emploi ne prennent souvent pas en compte la question du genre, et que de fait, pour accompagner une femme à l'emploi, il faut pouvoir l'inscrire dans une approche globale qui prend en compte autant la sphère économique, sociale et domestique de la situation de la personne. Parce que c'est comme si on vous disait que votre statut de salarié est complètement déconnecté de votre statut du quotidien, statut économique, c'est pas vrai. Donc du coup, déjà, pour pouvoir travailler la confiance en soi des femmes, il faut déjà pouvoir les accompagner dans une approche globale. Et avec des lunettes de genre, c'est pas être militant que de dire que pour accompagner des femmes, elles ont des enjeux dans tellement d'endroits de la vie du quotidien que on ne peut pas en faire l'impasse. Et donc ça, c'est le premier levier, c'est de prendre, de pouvoir voilà avoir cette approche globale. Ensuite, bah il faut pouvoir du coup par cette approche globale, bah voir tout ce qui va freiner le retour à l'emploi, revisiter le parcours sous ce prisme, qu'est-ce qui fait frein au retour à l'emploi, et du coup permettre une réappropriation. Et le problème, c'est que ça prend du temps parce qu'il faut instaurer une relation de confiance. Il faut accepter la temporalité des femmes. Elles n'ont pas que ça à faire quand on va chercher les enfants à l'école. Bah oui, quand les enfants sont malades, bah le rendez-vous il saute. Donc il faut pouvoir accepter une temporalité qui n'est pas celle des institutions de l'emploi de manière générale. Il faut avoir moins d'exigences de résultats, ou en tout cas il faut laisser du temps pour que elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent et qu'on puisse les écouter. Et il y a une dimension de pluridisciplinarité, c'est-à-dire que pour pouvoir travailler à l'emploi, eh bien il faut lever les freins. Donc pour lever des freins, il faut travailler avec des partenaires. Donc ça, c'est vraiment des leviers pour lever ces freins-là qui sont nécessaires dans l'accompagnement des femmes à l'emploi, tant pour la confiance en soi, mais aussi pour lever les freins. Voilà. Mmh. Et puis, il y a aussi, en fait, valoriser les compétences, c'est-à-dire que il existe la notion de savoir expérientiel, qui est de dire, c'est pas parce que on est, d'ailleurs, elle le dit bien dans Aline dans le reportage, c'est pas parce que on est à la maison que on n'a pas développé des compétences. Et donc du coup, il faut aussi que dans les professionnels qui accompagnent à l'emploi les femmes, il faut qu'elles puissent aussi avoir le temps de travailler avec les femmes sur quelles compétences vous avez développées, qui ne sont pas liées à votre diplôme, qui ne sont pas liées à votre expérience professionnelle. Et ça, ça demande du temps. Mmh. Et malheureusement, les dispositifs sont faits de telle manière que les professionnels ont peu le temps. Le temps, à part des associations comme les CIDFF, heureusement et malheureusement d'ailleurs, elles perdent aussi ce temps-là parfois.
Peut-être au-delà de notre entretien, est-ce que vous pourriez peut-être conseiller justement à ces femmes éloignées de l'emploi et à leur entourage qui nous écoutent des références utiles pour qu'elles puissent peut-être s'approprier la question, l'approfondir et peut-être aussi entrevoir justement des solutions dont on a pu parler aujourd'hui?
Il y en a pas énormément. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire aux femmes, et je l'ai connu, c'est-à-dire que moi, à un moment, pour entrer en doctorat, j'ai démissionné et je me suis inscrite à Pôle emploi, France Travail aujourd'hui. Et jamais j'ai eu l'idée d'aller vers un CIDFF, vers un service emploi, alors que les services emploi sont ouverts à toutes les femmes. Ils ont souvent la casquette femme éloignée de l'emploi, mais ce sont des services qui peuvent accompagner n'importe quelle femme. Et en fait, moi, je me dis, mais j'aurais adoré qu'en effet, pouvoir réfléchir à faire un doctorat. Comment ça impacte mon budget? Comment ça impacte le fait du temps que je vais avoir pour mes gamins? Comment? Et en fait, j'ai pas eu l'occasion. Je savais pas. Et donc, moi, la seule chose que je peux dire aux femmes est aux professionnels, c'est-à-dire que beaucoup de professionnels aussi ne savent pas, c'est-à-dire que moi je suis une professionnelle de l'associatif de l'insertion à la base, je ne savais pas que les CIDFF avaient des services emploi pour une grande majorité, parce que il y a 80
plus de 80, oui.
80 services emploi sur les territoires. Donc moi, la chose que je dis, c'est et aux femmes, et aux professionnels qui accompagnent des femmes orientez-les vers les services emploi, allez vers les services emploi des CIDFF parce que c'est gratuit, parce que c'est accessible à toute femme et qu'il y en a partout.
Le CIDFF, service d'information aux droits des femmes et des familles.
Ouais.
Céline Bourron, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes doctorante en sciences de gestion et de management à l'université IAE Paris-Sorbonne et chargée d'études à la Fédération nationale des CIDFF, spécialisée sur les questions d'employabilité des femmes et de leurs dispositifs d'accompagnement. Merci beaucoup, Céline Bourron.
Ben, je vous remercie surtout de m'avoir sollicité parce que c'est un tel sujet qu'il mérite vraiment, vraiment qu'on s'y intéresse, quoi. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous. Retrouvez notre série Plus d'excuses en diffusion sur l'ensemble des radios locales et associatives bretonnes de la Corlab, sur Radio Boa, leur émanation régionale en DAB+, et sur le site corlab.org, rubrique podcast, émission Plus d'excuses. À bientôt pour un nouvel épisode de notre magazine dédié aux actions en faveur de l'égalité et de la prévention des violences sexistes et sexuelles dans le travail. Et d'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin des autres.
C'était Plus d'excuses, un magazine produit par la Corlab et Radio Boa avec le soutien de la Région Bretagne, de la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. En partenariat avec la CRES Bretagne, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la mission STURM et les CIDFF, le réseau des centres d'information sur les droits des femmes et des familles.